Bonsoir, chers amis. C'est Chaim Goel qui vous parle depuis Jérusalem avec un mélange très, très, très significatif et très étonnant de joie très, 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 très profonde, tout en ayant conscience que nous sommes en train de vivre, je parle ici du monde entier, des circonstances de plus en plus affreuses, de plus en plus horrible, et qui me font penser que si le diable se déchaîne aujourd'hui sur la terre d'une façon aussi horrible, aussi atroce, je pense à cette vidéo qui a été postée par certains journalistes où l'on voit la décapitation de ce touriste français, c'était hier ou avant-hier, et si l'on songe à toutes les choses du genre, et bien pire, qui se déroulent aujourd'hui, on est tout simplement en train de se rendre compte qu'il y a une espèce d'accélération du barbarisme sur la planète, mais nous sommes certains aussi. Alors cela, quand on le dit, bien sûr, beaucoup préfèrent se boucher les oreilles, que les choses vont aller en s'aggravant encore. Tout simplement parce que si nous essayons d'être elliptiques, d'être simples et directs, dans ce que nous lisons, nous dirons que le diable sait qu'il lui reste peu de temps et il est en train de sortir son artillerie la plus brutale, la plus terrible qui soit aujourd'hui, dans un but dont je vais parler au cours de ce message. Ce message est très très particulier et il met en jeu quelque chose que Dieu m'a demandé de vivre depuis presque 2 mois maintenant et que je compare à une forme d'appel à un naziréat, c'est-à-dire à une mise à part absolument radicalisée, très, très particulière, que Dieu ne m'avait jamais demandé de vivre à ce point en 30 ans maintenant de vie, plus que 30 ans de vie de croyant et né de nouveau, et 28 ans à peu près, peut-être même un peu plus. 30 ans de ministère, me dit mon épouse, qui est mon agenda portatif et accompagnateur, 30 ans de ministère et un peu plus d'années de conversion. Jamais le Seigneur, pourtant j'ai vécu des temps très forts de mise à part dans la prière, dans le service, lorsque par exemple j'ai écrit certains de mes livres, je pense au livre Echad, n'est-ce pas, qui était un livre qui a nécessité une équipe de combat 24 heures sur 24 sur place avec moi pendant que je rédigeais ce livre il y a déjà pas mal d'années maintenant, ça va faire une vingtaine d'années. Et de toutes ces choses-là vécues, jamais je n'avais connu cet appel que je connais depuis 2 mois à peu près, d'une espèce de mise à part tout à fait étonnante, que je qualifie d'une espèce de naziréat. Et vous allez voir au cours de ce message que la chose fait sens et s'inscrit justement comme le moyen de vivre d'une façon extraordinairement heureuse, bénie, puissante et intime avec Dieu, dans des temps où tout ce qui est autour de nous va nous informer de ce qu'il y a de plus caché encore dans les ressources de Satan, n'est-ce pas, pour l'humanité. Que Dieu soit loué, parce que si le diable va sortir sa grosse artillerie, c'est qu'il sait aussi que Jésus revient. Et c'est là raison pour laquelle nous devons nous souvenir, par exemple, des paroles solennelles du Seigneur disant, n'est-ce pas, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre et de toutes sortes d'horreurs, de difficultés sur la terre, mais relevez la tête et regardez à moi parce qu'en fait je viens le rappeler. Donc le Seigneur nous a prévenus, n'est-ce pas, et toute l'Écriture nous le montre. Je ne vais pas commencer à m'engager ici dans une lecture du nombre incalculable de versets bibliques dans le Tanakh, ou bien dans la Brit Hadassah, qui nous parle du temps que nous vivons maintenant. C'est un temps où jamais l'humanité n'aura connu un tel niveau de laideur, d'horreur, de folie. Et c'est donc un temps très particulier qu'il nous faut traverser, d'une certaine façon, la tête haute dirigée vers le ciel. Et pour cela, eh bien, je pense que ce que Dieu a glissé fortement dans mon cœur il y a quelques semaines, quelques deux mois maintenant, c'est de rentrer dans une forme de naziréat. Je vous invite avec moi. Nous allons lire ensemble deux versets de l'Écriture qui sont tellement explicites et que le Seigneur a laissé monter à mon esprit en exergue de ce message. Il s'agit du chapitre 26 d'Ésaïe et les versets 20 et 21, deux versets qui m'ont de longtemps parlé lorsque je lisais ce chapitre du prophète Ésaïe. Il est écrit là, « Va, mon peuple, va », c'est-à-dire « fais quelque chose, ne reste pas stationnaire, va, mon peuple, entre », je vous lis ici la version Martin, qui est d'un français un peu archaïque, mais que moi j'aime bien, je m'y retrouve. Il est donc écrit, et je vais adapter un tout petit peu, « Va, mon peuple, entre dans tes cabinets, autrement dit dans tes chambres particulières, privées, et ferme ta porte sur toi. Cache-toi pour un petit moment, jusqu'à ce que l'indignation soit passée. Car voici, l'Éternel s'en va sortir de son lieu pour visiter l'iniquité des habitants de la terre commise contre lui. Alors la terre découvrira le sang qu'elle aura reçu et ne couvrira plus ceux qu'on a mis à mort. » On croirait vraiment que ces versets ont été écrits pour les jours que nous vivons. Le Seigneur s'en va sortir de son lieu pour visiter l'iniquité des habitants de la terre. Frères et sœurs, je vis et je vais y revenir, une espèce de naziréat depuis deux mois. Et bien sûr, je continue à vivre parce que je dois alimenter un site, par exemple, parce que je dois aller sous mes mails. Donc j'ouvre, je ne sais pas comment on appelle ça, ma boîte mail qui est pour moi AOL, d'autres c'est Yahoo. Et je tombe à présent sur une espèce de matraquage absolument inouï de petits articles qui me sont annoncés sur le côté que je n'ouvre pas, bien entendu, où il est question tous les jours, en ce moment, voyez les photos nues de telle jeune actrice dont le nom m'est inconnu. Je suis un homme de 66 ans dans quelques jours et depuis plus de 30 ans que je sers le Seigneur, eh bien, je ne connais plus rien à ces choses. Et je vois aussi des articles, mais d'une superficialité, d'une mondanité scandaleuse, n'est-ce pas, où il est question, je ne sais pas moi, du hamburger le plus noir qui se vende sur la terre, et ce genre de passe-temps absolument odieux au regard des souffrances que, en dehors de l'Europe, vivent des millions d'individus aujourd'hui, les famines, les pains, les massacres, les déportations, les exterminations, que sais-je, tant et tant d'autres choses, les viols, voilà, vous savez comme moi, vous suivez l'actualité. Il y a là, rien que là, dans cette espèce de vécu hollywoodien à l'occidental, n'est-ce pas, qui se paye le luxe de la nudité des jeunes filles, qui se paye le luxe des choses les plus mondaines, pendant que le reste de l'humanité est en train de vivre un véritable calvaire sur le plan strictement humain. Il y a là déjà une iniquité absolue que je ressens pour ma part. C'est avec tremblement que j'ouvre ma boîte email tous les jours maintenant parce que je suis obligé de lire, n'est-ce pas, les titres de ces articles et que je n'ouvre pas. Alors, je n'en ai aucune envie et je bénis Dieu pour cela. Je n'ai pas à lutter contre ces choses parce que le Seigneur m'a enfermé, n'est-ce pas, m'a montré, m'a mis dans mon cœur une espèce de... Je ne peux pas vous expliquer ce que depuis 2 mois le Seigneur a mis dans mon cœur, une espèce d'aimant qui attire au fond de moi-même les choses de Dieu en excluant d'une façon mais absolument infinie, absolument absolue, radicale, tout le reste qui n'est donc plus à être confronté ou d'une façon ou d'une autre. C'est merveilleux et c'est le sens du verset 20 lorsqu'il dit « Va, mon peuple, entre dans tes cabinets ». En vieux français, un cabinet était le lieu où, n'est-ce pas, lorsqu'on avait une maison un peu bien achalandé, ou bien on pouvait se retrouver avec son petit secrétaire et écrire, n'est-ce pas, jadis, n'est-ce pas, ses lettres, ou tenir ses comptes, ou que sais-je. C'est donc le lieu intime, le lieu du secret, personnel, familial, et dans vos Bibles, sans doute, il est écrit dans vos chambres. Et l'Écriture dit, ferme ta porte sur toi, enferme-toi avec Dieu. Cache-toi pour un petit moment, pour un petit moment. Alors, le petit moment peut durer quelques années, mais certainement pas des décennies, pour un petit moment. Et je gage que ce petit moment, il va être très court. Vous savez, il y a 3 doctrines sur l'enlèvement. Il y a ceux qui parlent d'enlèvement avant les 7 années de la tribulation. Il y a ceux qui parlent de l'enlèvement au milieu de cette année de la tribulation. Et il y a ceux qui parlent de l'enlèvement, n'est-ce pas, après les 7 années de la tribulation, au moment, enfin, juste à la fin, au moment où le Seigneur revient. Et moi, j'ajouterais une autre théorie, après tout, pourquoi pas, n'est-ce pas, l'enlèvement de, peut-être, à la fin du millénium, on pourrait, je n'ai pas pioché, et je n'ai pas envie de le faire, la question, parce que je ne me sens pas poussé par l'Esprit de Dieu à le faire, mais en tout cas, admettons que peut-être l'enlèvement se fait juste avant les 7 ans de la tribulation. Alors je peux vous garantir de la fameuse tribulation avec les 3 années et demie de séduction par l'Antéchrist et les 3 années et demie après, n'est-ce pas, lorsque l'Antéchrist aura voulu se faire proclamer Dieu à la face des Juifs ici en Israël et que les Juifs découvrent alors qui il est, etc., etc. Mais si nous considérons que l'enlèvement est proche, eh bien, il doit se dérouler juste avant que ne commencent les 7 années de la tribulation, eh bien, je peux vous garantir. Enfin, je vous garantis. Non, qui suis-je pour garantir? Non, mais je ressens, mais alors que nous sommes à 2 petits doigts de cet événement. Et lorsque la Bible dit, ferme ta porte sur toi, cache-toi pour un petit moment, je pense que le Seigneur nous invite à ces temps à faire une espèce de naziréa, c'est-à-dire de d'émigration vers l'intérieur, là où Dieu exige tout de nous et où il nous demande de rejeter tout ce qui ne vient pas de lui, même si ça semble légitime. Donc, je vous le disais, voici 2 mois, le Seigneur a mis à mon cœur une espèce de besoin extrêmement fort, extrêmement particulier, et une espèce de dégoût pour tout ce qui n'était pas lui, la Bible, la prière et éventuellement l'une ou l'autre lecture dictée et voulue par le Seigneur de livres particuliers, mais vraiment des choses dictées par le Seigneur. Mais subitement, alors que jusque-là, comme n'importe qui, je pouvais lire l'une ou l'autre chose, écouter un morceau de musique, que ce soit de Jean-Sébastien Bach ou d'un autre musicien classique que j'aime plus particulièrement, soudain, il y a 2 mois, toutes ces choses me sont devenues comme interdites, c'est-à-dire quelque chose même au très fond de mon cœur, de mon âme, ne me donnait que le contraire de l'envie de les écouter. J'étais surpris. J'étais surpris parce que toutes ces choses en une fois, qui pourtant étaient légitimes, qui n'ont rien à voir avec des choses impures, ou des choses occultes, ou que sais-je d'autre, ou des choses répréhensibles, mais normales, eh bien, ces choses étaient chassées de ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Seigneur m'a dit, rentre à l'intérieur de ton cabinet particulier, et ton cabinet particulier, c'est au fond de toi, avec moi. Et vis ce que je veux que tu vives là. Je voudrais tout de suite vous dire que cette espèce de retraite en soi, commandée par l'Esprit de Dieu dans les temps que nous vivons, n'est pas une retraite passive. C'est un lieu d'incandescence. J'ai une joie profonde d'avoir vécu cette étape et j'aimerais vous la communiquer. Je ressens une espèce de jubilation, une espèce de folie presque, de sainte folie à vivre quelque part dans cet espace fermé avec Dieu, comme jamais, une espèce de prémisse à une joie exceptionnelle qui va se révéler un jour prochain pour ceux qui vraiment, vraiment décident de se laisser enfermer avec Dieu. Alors que le diable aujourd'hui, n'est-ce pas, répand son haleine fétide, horrible, partout sur la terre. Ce naziréat est une invitation vers l'intérieur de vous-même comme jamais. Peut-être, j'espère que vous le ressentez aussi. J'aimerais savoir si d'autres le ressentent. J'aimerais savoir. Je ne crois pas être le seul à vivre cela aujourd'hui. C'est impossible. Parce que je crois que c'est en accord avec les temps que nous vivons. Et j'aimerais savoir si d'autres le vivent. Je les invite à m'écrire sur ce site, à m'en faire part. J'aimerais savoir. Et je répète. Cette espèce de naziréat intérieur est quelque chose qui vous met dans une incandescence avec jamais je n'ai été plus habité des choses que je dois dire et faire pour le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. J'aimerais, avant de continuer sur cette lancée, vous dire que je ne devrais même pas vous dire que pour ressentir cet appel, et j'espère que vous allez tous le ressentir, en tout cas tous le désirer et le rechercher, eh bien il faut au préalable, bien sûr, qu'il y ait une recherche ardente et vraie de sainteté qui ait été accomplie dans nos vies. Vous savez, l'Écriture nous dit que nous devons rechercher la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu. Et j'ai la conviction que Dieu est en train de nous appeler, à une communion avec lui que nous n'avons peut-être jamais connue, à une espèce de mise en cachette intime avec lui. Ce n'est pas une espèce d'intimité presque silencieuse d'ailleurs, très personnelle, n'est-ce pas, qui, bien sûr, ne peut pas concevoir que la sainteté en soit absente. Frères et sœurs, je ne devrais pas dire ces choses maintenant, mais je le dis quand même parce que l'Esprit de Dieu m'y conduit quelque peu. Pas de compromis. Une des choses que je fais depuis 2 mois, c'est de passer au crible absolument tout ce que je vis, et de vérifier devant Dieu que tout est clair, tout est net. Récemment, j'ai dû gérer des situations difficiles, avec des personnes vraiment difficiles et avec des comportements pas recommandables. J'étais joyeusement surpris de vérifier que, tout de suite, j'ai choisi de ne pas discuter avec ces personnes. Parce que l'Écriture dit qu'on ne discute pas avec l'insensé. Et voyez-vous, je ne le dis pas avec une nuance d'accusation, ou de mépris, ou de rejet. Non, pas du tout. La Bible dit aussi de bénir vos ennemis. Et j'ai choisi sur le champ d'avoir un discours modeste et simple avec ces personnes. Et de les bénir. Et je les bénis présentement comme je les ai bénis dans les circonstances que j'ai vécues avec eux. J'y ai vu un signe extraordinaire de ce que, là en tout cas, le diable n'a plus d'emprise sur mon âme. Je n'ai pas honte de vous le dire, je suis paix de chair comme vous, et Jadis, lorsque l'on me blessait ou lorsque l'on était injuste avec moi, eh bien mon âme réagissait. Nous sommes arrivés, frères et sœurs, à un point où Dieu nous invite dans une intimité avec lui, où vraiment, lorsqu'il nous dit « bénissez vos ennemis », nous le fassions sans aucune difficulté. Nous le fassions comme l'eau pure qui sort de la source se répand tout de suite. Vous comprenez ce que je veux dire? Pas de compromis. Est-ce que nos cœurs sont purs aujourd'hui, à tous égards? Je vais vous donner un exemple parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a une véritable invasion dans l'Église elle-même d'un problème qui vient du monde et qui vient de Satan. J'ai assisté à la naissance de cette stratégie satanique il y a 40 ans à peu près, pas loin de 40 ans, dans les années 70-80, donc c'est pas tellement 40 ans, enfin à peu près le calcul, qu'importe, où je fréquentais des milieux d'artistes, puisque j'étais un artiste, des milieux intellectuels, des milieux, voilà, et où j'ai vu apparaître dans la fange gauchisante de ces milieux des pratiques que personnellement je haïssais, personnellement je ressentais extrêmement dangereuses. C'était des pratiques où des gens, n'est-ce pas, vivaient ensemble, hommes et femmes, en décidant de ne pas se marier pour se donner le droit à la liberté. Alors, c'était déguisé avec une somptueuse hypocrisie dans les discours. Oui, si j'ai envie d'aller en vacances sur la Côte d'Azur et que lui a envie d'aller au pôle Nord, nous sommes libres. Et puis on l'entendait tout de suite par derrière pour coucher avec qui je veux coucher. Voilà, c'était clair. Mais ce n'était pas dit, bien sûr, parce qu'en même temps, on jouait en couple l'amour gentil, l'amour, c'est rempli de mensonges. Et tout ça, chez des gens qui vous la jouent belle sur le plan public et sur le plan, n'est-ce pas, de l'expression artistique ou intellectuelle ou autre. J'ai assisté à cela et j'ai vu les profondeurs de Satan dans ces choses parce que il y a foncièrement, tout à la base de cela, une rébellion contre une chose sacrée à laquelle Dieu s'attend de la part d'un homme et d'une femme, la fidélité déclarée, affichée humblement, n'est-ce pas, au vu de tous, afin que cette vision du couple, n'est-ce pas, eh bien, soit quelque chose qui parle de stabilité, qui parle de fidélité. C'est beau la fidélité. Je viens de fêter avec mon épouse il y a quelques jours nos 37 ans de mariage. Et vous savez, nous les hommes, on compte pas tellement toutes ces choses, c'est comme les anniversaires. Je n'y pense pas pour ma part, c'est mon entourage qui me rappelle, voilà, t'as une année de plus. Et l'autre jour, sur le coin de la table, mon épouse m'a dit, tu sais qu'aujourd'hui c'est 37 ans de mariage. Et je l'ai regardée et j'en ai eu presque les larmes aux yeux, elle aussi, parce que nous nous sommes rendus compte, mais nous venons de vivre 37 ans tous les deux, ensemble, avec nos caractères, avec nos différences, avec nos heures parfois, avec nos difficultés et tout. Mais comme c'est bon de pouvoir se dire, on a été fidèles, on a été fidèles. Depuis qu'on connaît le Seigneur, on a vécu fidèlement. Et on peut se regarder droit dans les yeux. C'est merveilleux, c'est magnifique, c'est beau, la fidélité. Parce qu'on se rend compte que pendant 37 ans, eh bien, il n'y a pas eu d'hypocrisie. Il n'y a pas eu de lâcheté. Amen. Eh bien, je voudrais simplement, tous ces mouvements dont j'ai connu l'essence, n'est-ce pas, le refus du mariage, pratiqué par des gens intelligents, des gens très intelligents, n'est-ce pas, qui ont infiltré peu à peu à travers tout le gauchisme 68-art. Je le dis comme je le pense, car avant ma conversion, j'étais ce qu'on peut appeler un anarchiste de droite, et certainement pas ni un gauchiste, ni quelqu'un de droite, ni d'extrême droite. J'étais une espèce de personnage en retrait de tout, car finalement, n'ayant confiance en rien de ce que les hommes peuvent produire. Je n'ai jamais fait de politique. Donc ce non au mariage est en fait, qui enferme la sexualité dans un monde de non-fidélité, de non-unité et de non-sécurité non plus pour les enfants. Il y a des couples aujourd'hui qui ne veulent pas se marier et il y a là des enfants, n'est-ce pas, qui, il y a là une espèce de comble dans la déchéance. Non pas que le mariage donne un poli d'apparence, ce n'est pas ça que je parle, mais il y a dans ce refus, cette crainte de s'engager, donc d'être fidèle et de payer le prix d'une relation qui psychologiquement représente un fondement pour des enfants, parce que, comme le disait un ami chrétien qui travaille dans une institution en Suisse où sont hébergés des enfants de diplomates et d'industriels russes et autres, il me disait, certains des grands adolescents qui sont à l'école chez moi me supplient leurs parents de se marier parce qu'ils se sentent complètement mal dans un monde où des gens se marient. Alors je sais que beaucoup de gens ne se marient plus aujourd'hui, mais beaucoup se marient encore. Et le mariage est une institution, n'est-ce pas, que Dieu aime. J'ai appris récemment, alors là c'était pour moi le comble du comble du comble du comble, et bien que dans la famille d'un pasteur en France, et bien cet homme et son épouse hébergeaient un de leurs enfants qui vivait en concubinage avec, je pense même, un enfant. Alors je vous pose vraiment la question, si vous acceptez en tant que pasteur chez vous un de vos enfants, n'est-ce pas, vivant en concubinage avec un enfant, en refusant de se marier, eh bien, vous acceptez, vous entrez chez vous, le discours de la promotion de la non-fidélité assurée, de l'adultère et de la fornication. Et je me demande vraiment, et je pense que vous pouvez imaginer, la porte qui est ouverte là aux démons de toutes sortes, et dans la maison de ce pasteur, et aussi ce que cet homme va répandre du haut de l'estrade comme influence démoniaque, quel que soit l'emballage et le déguisement religieux de sa prédication. Frères et sœurs, attention à ces choses, s'il vous plaît. Prenons un temps aujourd'hui, si nous voulons vraiment entrer dans un naziréen, à l'intérieur de nos chambres privées, intimes, intérieures avec Dieu. Il nous faut aussi mettre un ordre immédiat dans nos vies. Immédiat. Il faut être radical, il faut être entier. Autrement, ne soyez pas étonnés que les portes soient ouvertes aux troubles dans votre vie. Il y a des gens qui souffrent de toutes sortes de troubles, d'angoisses, qui sont perturbés, qui ne se sentent pas à l'aise dans leur vie chrétienne et qui ont peur des circonstances, n'est-ce pas, qui sont de plus en plus atroces devant nous, de plus en plus démoniaques et diaboliques. Vous avez peur parce que vous n'êtes pas en ordre avec Dieu en un point. Moi, je vous le dis, mettez-vous en ordre tant qu'il est temps et rentrez ensuite les mains propres. Le cœur pur, la tête sereine, le corps en paix, l'âme en repos, dans cette intimité avec Dieu, qui deviendra incandescente avec l'Esprit de Dieu. Autrement, ce n'est pas possible. Il y a quelques jours, deux expériences très fortes sont survenues, qui sont venues confirmer ce que je suis en train de vous dire. Nous avons un merveilleux frère, jeune frère dans l'œuvre en Suisse, il s'appelle Samuel, je crois qu'il ne manquera pas du tout d'eux. Et Samuel, n'est-ce pas, m'a d'ailleurs confié, je pense que c'est avant-hier par mail, qu'effectivement, il commençait à comprendre quelque chose que Dieu mettait tout doucement sur son cœur, savoir lui aussi une espèce de naziréen, mais il n'avait pas bien identifié ce que Dieu voulait dire. Il n'avait pas vraiment compris. Je crois que maintenant il a compris. Et pour l'aider à comprendre, Dieu lui a permis de vivre une expérience très violente. Quelle est-elle, cette expérience? Eh bien, ce garçon, n'est-ce pas, pour se détendre un peu, n'est-ce pas, parce que voilà, il était fatigué, etc., a reçu de sa maman, qui est une sœur magnifique, que j'aime beaucoup, un film à regarder pour se détendre. Voilà, un petit film. Ce film ne contient je crois, parce que je ne l'ai pas vu, mais d'après ce que l'on m'a dit, rien d'impur, rien d'occulte, pas d'adultère, ni que sais-je, enfin bref, comme ces nombreux films qu'on voit maintenant, où on ne voit que nudité, horreur, toujours plus horrible, crime, occultisme, et imbécilité au niveau des scénarios. Je suis un ancien homme de théâtre, un homme de télévision, de cinéma, et j'ai su comment on construisait un scénario, etc. J'ai étudié le cinéma aussi, lors de stages, quand j'étais tout jeune, et quand je vois aujourd'hui, la platitude et l'imbécilité, littéralement l'imbécilité, n'est-ce pas, des ressorts de scénarios dans la plupart des films aujourd'hui, que je ne regarde plus d'ailleurs, heureusement, eh bien, je suis absolument atterré. Bref, notre frère Samuel reçoit un film où il est question d'un bonhomme qui chute dans une crevasse, je ne sais où, en faisant l'alpiniste, et est obligé, pour se dégager, de se couper lui-même un bras pour en sortir. Alors évidemment, c'est probablement sanglant, c'est extrêmement dur, extrêmement violent, et c'est présenté comme une espèce d'épopée du courage. Mais vous savez, je me rappelle dans ma jeunesse, nous regardions parfois des films où il y avait des épopées du courage, et nous lisions des bandes dessinées où il était question d'épopées du courage. C'était des bandes dessinées d'après-guerre, qui, n'est-ce pas, où il y avait le bon, le mauvais, et puis le bon courageux, justement, avec beaucoup de courage, à travers beaucoup de rebondissements, eh bien, finissait par triompher. Il y avait une idée générale du triomphe du bien sur le mal. Aujourd'hui, les épopées courageuses, c'est pour les anti-héros, c'est possible qu'il y aura un certain courage, mais il y aura des hectolitres de sang à la clé, de la violence, de la brutalité, etc., etc. Le but de films comme cela, c'est justement de faire ce que un certain islam est en train de faire partout dans le monde aujourd'hui, c'est-à-dire vous faire peur, vous amener dans la peur, c'est-à-dire vous amener dans votre âme, vous amener dans une espèce de tourment de l'âme infini qui justement va vous empêcher d'entrer dans l'intimité spirituelle au centre de votre cœur, de votre vie avec le Seigneur. Moi-même, voici 3 jours, en allant sur Internet pour nourrir quelque peu notre site, je suis tombé sur, vous savez, on tombe sur des films qu'on place et puis on a à la fin de la bobine, si j'ose dire, du film sur YouTube, on trouve d'autres films. Alors j'ai vu un film où il était question de Kadhafi, je me dis, je vais me rafraîchir la mémoire, qu'est-ce que c'est? Et je clique, et c'est le fameux épisode où Kadhafi fut trouvé caché dans je ne sais plus quoi d'ailleurs, et c'était un épisode dont j'avais oublié qu'il était particulièrement dur et violent, et je me suis empressé de cesser de le regarder, mais néanmoins je l'avais vu un petit peu. Eh bien, j'ai été attaqué au cours de la nuit par des esprits extrêmement particuliers, et j'étais étonné, car cela ne correspondait mais en rien à ce que je connais de ma vie. Donc, je me suis réveillé, j'ai prié, et le Seigneur a révélé à mon épouse, c'est simplement le visionnage de quelques instants de cette courte vidéo qui a permis à l'ennemi de t'agresser, de te violenter en quelque sorte. Donc, frères et sœurs, cette entrée, ce retour, cette espèce de convocation en nous-mêmes, avec le Seigneur en rejetant absolument tout ce que le Seigneur ne souhaite pas que nous utilisions en ces jours, est absolument importante. Ce temps est un temps très spécial, frères et sœurs. Nous devons prendre vraiment attention. Le diable veut nous obliger les hommes, tous les hommes, à quitter absolument le niveau de l'esprit pour les fixer sur leur âme. Et si possible aussi sur, bien sûr, les passions du corps. Les émotions vaines, même les pensées intellectuelles qui font partie finalement du domaine de l'âme. Il fut une époque de ma vie où, lorsque j'étais pas chrétien, je spéculais des heures et des heures et des heures en parlant seul, même parfois, après avoir lu tel philosophe ou tel poète, et je construisais, n'est-ce pas, des châteaux en Espagne ou des buildings en chimérie, appelez ça comme vous voulez. Tout cela procède de l'âme et était absolument inutile pour mon intellectualité. J'ai aujourd'hui la parole de Dieu et elle est d'une telle richesse. Et j'ai aussi, n'est-ce pas, une activité intellectuelle qui est directement greffée sur ce que l'Esprit de Dieu active dans mon cœur. Les bavardages infinis, je constate cela quelquefois chez certains croyants qui parlent si longuement pour ne rien dire, parce qu'ils révèlent souvent ces bavardages, le fait d'âmes qui sont troublées, mal affermies, qui éprouvent le besoin de s'affirmer, de que sais-je d'autre, etc. Il y a aussi toutes ces stratégies, n'est-ce pas, que nous voyons tous les jours maintenant, des violences les plus barbares qu'il y aurait imaginées il y a encore, même un an, qu'à Londres, n'est-ce pas, un musulman noir découperait la tête d'une personne en plein milieu d'une rue avec des passants qui n'interviennent pas. Enfin, rendez-vous compte, n'est-ce pas, tout cela est absolument hallucinant et n'ira pas en diminuant. Lisez l'Écriture, vous verrez que l'Écriture nous montre très clairement que la violence va augmenter sur la terre d'une façon considérable avant le retour du Seigneur. Et que ce retour soit très proche est mon souhait de toute évidence. Amen. Le diable veut attirer aussi l'attention des hommes sur leur corps à travers une espèce de toujours plus de nudité qu'on veut vous imposer de regarder, etc. La théorie des genres, vous avez entendu parler de cela. Et n'est-ce pas, j'ai entendu récemment une brave sœur en Suisse me dire que dans certaines écoles maternelles de Suisse, alors accrochez-vous, mais c'est absolument invraisemblable, on donne à des enfants d'écoles gardiennes, donc maternelles, gardiennes c'est en Belgique, maternelles, donc des tout petits, des pluches, alors accrochez-vous, j'arrive à peine à le penser possible, en forme de sexe masculin et féminin, des peluches données à des enfants de maternelle. Mais vous rendez-vous compte où nous sommes en train d'aller. Amen. Le diable le fait aujourd'hui et le fera encore plus demain. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est pourquoi Jésus a parlé de guerre, de bruit de guerre, d'iniquité croissante, mais il nous a en fait prévenus. Et je peux dire qu'aujourd'hui, nous sommes devant les fêtes, afin que nous tenions bon. Et le Seigneur nous invite à lever la tête vers le ciel. Moi, je dirais à rentrer en nous-mêmes, comme je viens de le lire dans le prophète Ésaïe, afin d'être, mis à part spirituellement, moralement et concrètement de tout, en dehors des seules choses qui viennent de Dieu. La parole de Dieu, la prière, la communion fraternelle, le vécu de l'Église sur des fondements bibliques, s'il vous plaît. Si vous avez négligé de vivre ces choses, alors que j'en suis convaincu depuis près de 20 ans maintenant, en tout cas à travers mes enseignements, ces choses ont été énoncées largement. Et tant mieux si vous êtes de ceux qui avaient soif de les vivre maintenant. Je pourrais élargir à une saine compréhension de la compréhension des racines juives de notre foi qui exclut la théologie du remplacement, mais qui exclut aussi, n'est-ce pas, une espèce d'adhésion folklorique, anti-biblique à des choses auxquelles nous ne devons pas adhérer. Lisons donc, encore une fois, Ésaïe 26, versets 20 et 21. « Va, mon peuple, entre dans tes cabinets, entre dans tes chambres, et ferme ta porte sur toi. » Frères et sœurs, je souhaite de tout mon cœur que le Seigneur ferme devant vos yeux, devant les yeux de votre cœur, la porte à la musique que vous écoutiez, la porte à la télévision, si vous en avez encore une, la porte à vos films que vous regardiez, en espérant que vous n'avez jamais eu que des films que l'on peut regarder. Il faut creuser beaucoup aujourd'hui, mais on peut en trouver. Amen. Et bien que Dieu puisse fermer la porte même à toutes ces choses. Cache-toi pour un petit moment si vous fermez la porte à ces choses. Vous allez rentrer dans une intimité sacrée avec votre Créateur, avec celui qui vous a sauvé, avec Dieu. Et vous allez vivre là une incandescence que vous n'avez jamais vécue, une incandescence spirituelle toute particulière. Oh, vous n'y aurez peut-être pas une visitation de l'esprit tonitruante, non. Il y a même des moments depuis que je suis entré dans mon Nazireat où Dieu ne me parle absolument pas. Et je suis convaincu qu'il est là, au fond de mon cœur, qu'il y est. Et il veut savoir. Il veut savoir si je suis prêt à me laisser fortifier. Vous savez, quand Dieu nous parle, nous ne sommes pas fortifiés. Nous sommes encouragés. Nous sommes dirigés. Mais nous sommes fortifiés quand Dieu ne nous parle pas, quand il semble absent. Et c'est là que nous sommes forts. C'est là que nous prenons courage. Prends courage et fortifie-toi. Ne recule pas devant les adversités. Nous avons vécu ces temps-ci des attaques sournoises. Mais frères et sœurs, du fond de mon cœur avec le Seigneur, je voulais donner un témoignage au cours de cette prédication. Je laissais la source pure de Yeshua Mashiach jaillir. Bénis tes ennemis, ne réponds même pas. Bénis-les, continue. Vous savez que c'est extraordinaire. Un, de même pas réagir quand on fait du mal ou du tort, mais d'aimer les gens, de commencer à les aimer. Et ça devient comme une source que vous ne pouvez pas éteindre en vous-même. Vous les aimez, vous ne regardez pas au mal qu'ils vous font. Dans l'intimité avec Yeshua, c'est quelque chose d'extraordinaire à vivre. Et je vous assure, je vais continuer à le faire parce que j'y trouve, je vais vous dire la vérité, un immense bonheur. Mais un bonheur qui n'a rien à voir avec les bonheurs de la terre, ce sont des bonheurs, c'est un bonheur, comment décrire ? Il y a quelque chose d'infini, quelque chose de parfait, quelque chose qu'on ne peut pas attacher à quoi que ce soit d'humain. Frères et sœurs, j'aimerais vous bénir en terminant ce message. Soyez sages, suivez peut-être les quelques conseils que je vous donne à travers ce message, pour connaître, vous aussi, cette communion incandescente avec le Seigneur, en écoutant l'Esprit qui nous dit ceci ou cela, et qui nous dit que telle et telle chose est désormais inutile. Nous avons à Yerushalayim, et je crois qu'elle ne m'en voudra pas d'en parler, une chère sœur qui est en face de moi, qui est une créature de Dieu, qui a été créée avec une certaine carnation, une peau blanche rose avec des yeux bleus. Et par-dessus tout cela, il y a une magnifique chevelure où se mélange le blanc et le gris. Et cela lui donne quelque chose d'extraordinaire parce qu'elle est jeune de cœur, mais elle a derrière elle des années. Et puis quand on la regarde, on se dit « c'est beau ». C'est beau parce que c'est vrai, parce que c'est naturel. Mais j'ai connu cette chère sœur pendant l'époque où elle a quitté une église que j'appelle Americanoïaque, où l'on cultive le chips, le loukoum et les strass de toutes sortes, et elle se teignait les cheveux en tout ce que vous voulez, toujours blond ceci, blond cela. Et je me souviens que lorsqu'elle apparaissait devant nous, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas pour moi. Il y avait, et j'ignorais qu'elle se teignait les cheveux à l'époque. Pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce que quand vous commencez à vous attacher à des choses secondaires, vous êtes obligé d'adopter aussi tout un comportement secondaire. Parce que vous entrez... Vous sortez de chez vous avec vos cheveux teints, vous pensez à votre couleur de cheveux teints. Et vous dites, j'espère qu'ils sont bien, j'espère qu'on va les voir, j'espère que c'est bien, qu'on ne verra pas qu'il y a des racines noires, et gna gna gna, et toutes ces choses qui vous occupent. Et quand vous entrez chez les gens, vous regardez leurs yeux qui vous regardent pour savoir s'ils voient bien qu'eux et que tout va bien. Vous voyez une simple petite chose superficielle que pratiquent tant de femmes aujourd'hui. Eh bien, le Seigneur vous dit, arrête avec ces sottises, arrête avec tout cela. Apprends à répandre un parfum de calme, de vérité, d'authenticité. Sois toi-même, sois simple, sois vrai, et dégage-toi du tout. Vous portez des bijoux qui vous font remarquer comme chrétien ou comme juif messianique, eh bien, débarrassez-vous-en. Débarrassez-vous-en au poids de l'or si vous avez besoin d'argent, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous savez, parfois, j'ai vu dans certaines réunions, heureusement, je ne suis plus invité dans ces milieux, mais je me rappellerai toujours de ce personnage filiforme, habillé en gaze verte, vert, venant vers moi avec des ongles peints en vert, si j'ai bon souvenir. Je me demande même si elle n'avait pas un rouge à lèvres vert et des yeux, n'est-ce pas, avec du rimmel vert, pas obsédé par le vert. Je ne sais pas, se prenait peut-être pour une grenouille, je ne sais pas. En tout cas, elle m'a dit, monsieur, frère, je suis une prophétesse. Je suis reconnu par monsieur un tel, monsieur un tel, monsieur un tel, et des gens que l'on dit vraiment prophètes. Et elle me présente une espèce de parchemin, n'est-ce pas ? Vous voyez, ces horreurs de trucs, n'est-ce pas, où on fait semblant que ça a été brûlé, ça fait Moyen-Âge, vous voyez ce que je veux dire ? Ça fait un peu sorcière aussi, d'ailleurs. Et il y avait les noms, n'est-ce pas, du prophète machin, et du prophète Trucmuche, et du pasteur Bidule, qui avait signé, ouais, cette sœur, elle a une onction, et ceci et cela. Et elle m'a demandé d'apposer ma signature, alors que je ne la connaissais même pas, mais j'étais censé, rien qu'en la voyant, tomber dans les pommes, parce que j'avais devant moi la plus grande prophétesse du XXe siècle. Il paraît même qu'il y a maintenant à Lausanne un jeune, soi-disant serviteur de Dieu, qui a reçu de Dieu qu'il est appelé à amener au Seigneur 1 milliard de personnes sur la terre. Enfin, vous savez, au point où on en est, frères et sœurs, s'il vous plaît, je termine ce message avec une pointe d'humour, mais c'est d'un humour tragique. Je vous invite à fuir toutes ces choses et à faire très attention. Mettez vos vies en ordre s'il faut les mettre en ordre maintenant. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Vous voulez savoir ce qui ne va pas dans votre vie ? Asseyez-vous chez vous, mettez-vous à genoux, faites comme vous voulez, rentrez dans votre chambre. Demandez au Seigneur, Père, montre-moi s'il te plaît, là où ma vie ne te convient pas, là où ça ne va pas. Et montre-moi comment, ce que je dois faire, tout simplement. Et il vous montrera. Amen. Vous voyez, il n'y a pas besoin nécessairement qu'il y ait un pasteur qui vous fasse une cure d'âme pendant 10 ans pour cela. Vous pouvez le faire de vous-même. Si vous avez un cœur bien accroché à l'amour de la vérité, eh bien, vous pouvez le faire. Ensuite, réfléchissez quand même au fait de demander à Dieu aussi de vous montrer tout ce dont à quoi vous ne devez plus toucher, même si c'est légitime, même si c'est Jean-Sébastien Bach. Non, votre temps maintenant doit être enfermé avec Dieu, au cœur de votre humanité, qu'on appelle le temple du Saint-Esprit, au cœur de votre être, intime avec le Seigneur. Rentre dans ta chambre, mon peuple, ferme ta porte, le temps que passent les calamités sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Dans le bon nom de Yeshua, Amen.